sur le tamari.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission de débat sur votre radio.
Studio Tamani.
Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Mikado FM, Studio Tamani et radio partenaire de l'URTEL, bienvenue au débat depuis l'esplanade du Palais de la Culture où se tient la conférence d'entente nationale. Un débat co-animé par Sori Ibrahim Maïga côté Mikado et Mariam Maïga, Studio Tamani. Le thème central de notre débat porte sur le retour de l'administration dans le Nord et le centre du pays. Pour rappel, depuis la crise de 2012, l'État central a perdu le contrôle de deux tiers du territoire à la suite de l'intervention de l'armée française à travers l'opération Serval appuyée par l'armée malienne. Une bonne partie du territoire a été libérée. Malgré cela, on assiste à une insécurité récurrente au nord, puis maintenant au centre du pays. Une situation qui impacte sur la présence de l'administration dans une bonne partie du pays, d'où notre thème du jour. Durant trois quarts d'heure, nous allons débattre avec nos invités qui sont M. Georges Togo, il est gouverneur de la région de Ségou. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir.
Et le second invité, c'est Monsieur Seydou Traoré, gouverneur de la région de Gao. Monsieur Traoré, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation aux opérations techniques Noum Djiré et Nagesh Polimera.
Alors, monsieur le gouverneur de Gao, Seydou Traoré, peut-on savoir s'il y a une présence effective de l'administration dans toute la région de Gao?
Oui, on peut bien savoir qu'il y a l'administration qui a été déployée véritablement dans la région de Gao.
Alors, Georges Togo, on sait que la réalité diffère chez vous. Quelle est la réalité liée à l'administration dans la région de Ségou?
Pour ce qui concerne la présence de l'administration dans les différentes localités, au niveau de la région de Ségou, il n'y a aucun problème. L'administration générale, de proprement dite, est partout.
Alors, donc, nous allons revenir avec monsieur le gouverneur de la région de Gao. Vous avez confirmé la présence de l'administration au niveau de votre région, mais en termes de pourcentage, on peut l'estimer à combien? Combien pourcent de l'administration est déployée dans la région de Gao aujourd'hui?
Encore une fois, je précise que l'administration est sur le territoire, c'est sur le terrain, déployée grâce aux efforts immenses fournis par le gouvernement, qui à un moment même assisté et dépensé pour que cela soit. Parce que c'était une recommandation forte, une doléance très très permanente des populations du Nord. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore des poches. Des poches où, prudemment, par précaution, nous avons estimé sécuriser le retour. Cela s'entend en termes de présence de l'ensemble du corps d'État. Cela veut dire et le personnel représentant l'État, le personnel chargé de la sécurité des institutions et symboles de l'État, ceux qui sont chargés également d'assurer les services sociaux de base et là où c'est nécessaire, là où c'est prévu, assurer la présence de la justice, des services d'assiette et de recouvrement. Alors, je peux vous dire qu'il y a certaines poches encore où, par précaution, nous avons estimé utile que des conditions soient réunies pour que ces personnels soient à ce niveau précis où ils doivent opérer. Sinon, d'une manière générale, tout ce qui était prévu pour être redéployé se trouve présentement dans la région de Gao, à l'exception Et là, c'est des questions techniques qui sont prévalues, qui sont souvent évoquées. Les services financiers. Vous savez, ceci, ils doivent travailler avec du matériel qui doit nécessairement être connecté pour un suivi de l'ensemble du processus. Alors, c'est pourquoi ceci, jusqu'ici, ils n'ont pas pu être déployés en raison de quelques difficultés liées à ces facteurs.
Oui, monsieur le gouverneur, les services financiers ne courent pas de risque quand il y a l'insécurité. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt un problème d'insécurité qui fait qu'ils n'ont pas cette confiance d'aller s'installer au niveau de la région?
Non, il y a les deux aspects. Vous savez, c'est humain. Moi qui vous parle, je suis en poste. Je vis avec les risques. Il est permanent, il est ambiant. Mais tout le monde n'est pas peut-être comme moi. Or, je n'ai aucun autre secret.
Oui, mais donc ils disent au-delà de la capitale régionale, à l'intérieur, quasiment, l'administration, elle n'est pas aussi présente et dynamique comme ça se doit.
Ceux qui le disent, peut-être qu'ils sont de côté pour mesurer. Sinon, moi, en tant que gouverneur de la région de Gao, je sais qu'à Bourem, c'est un cercle de Gao, tous les services d'État sont là-bas. À Ansongo, c'est pareil. Il y a des exceptions. Par exemple, en match, certains services tels que la justice, et ils ne sont pas totalement déployés. À Gao même, il y a certains services tels que les services financiers, ils opèrent de loin. Ils sont à Bamako, mais ils opèrent à partir de Bamako. Mais ils ne sont pas physiquement avec nous sur le terrain.
Mariam souhaite poser
alors,
une question.
Alors, au-delà des services financiers, peut-on savoir l'éducation, comment se passe l'éducation de base sur le terrain? Parce qu'on savait que jusqu'à un moment, en début d'année, il y a certaines localités dans la région de Gao, précisément par exemple en Songo, dans la localité de Tessit, il y avait des endroits où l'école n'avait pas encore repris.
C'est vrai, nous avions fait un moment le point avec le ministère chargé de la question. Et au moment où on faisait l'évaluation, il restait encore à peu près une trentaine d'écoles non réouvertes. Cela est lié, je vous l'ai dit, j'ai dit qu'il y a des poches d'insécurité. Voyez-vous, un fief comme Talatay, où ils ont une autre lecture des accords pour cette commune, les responsables de la population de cette commune. Alors, le préalable, c'est les autorités intérimaires avant toute autre chose. Donc, étant dans cette situation, prendre le risque d'envoyer des agents de l'État qui ne soient pas des agents sous la couverture des autorités intérimaires, c'est les exposer inutilement. Alors, donc, ce phénomène existe. Mais, comme je t'ai dit, ce n'est pas à la proportion que les gens y pensent. Si je dois faire une évaluation, nous sommes à plus de 60 à 70% du retour effectif des agents de l'administration sur le territoire de la région de Gao.
Merci, monsieur le gouverneur. De passage, on remercie le gouverneur Daouda Maïga, gouverneur de Menaka, qui vient de prendre le train en marche. Monsieur le gouverneur de Ségou, monsieur Georges Togo, on sait que ce n'est pas les mêmes réalités, mais il y a une sorte d'insécurité, d'instabilité au niveau de cette partie du centre qui vient au niveau de la région de Ségou, qui impacte aussi sur la présence de l'administration dans une partie de votre région, Ségou. Qu'en est-il à votre niveau?
C'est vrai, il y a cette espèce d'insécurité qui est de nature un peu différente de la réalité vécue dans la partie nord du Mali. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'insécurité qui fait que certains services techniques assez éloignés des centres, des chefs-lieux où il y a les autorités administratives, les maires et les sous-préfets, des écoles de village, par exemple, ont dû fermer parce qu'ils sont constamment sous la menace de certains groupes qui se disent djihadistes, mais qui, au fond, vous devinez facilement. Nous les qualifions plutôt de groupes de bandits. Parce que aller empêcher que les enfants puissent suivre normalement leur formation. Je ne sais pas dans quelle idéologie ils vont placer ça. Donc nous connaissons quelques localités dans le cercle de Massina, dans le cercle de Nyono aussi, du côté de Nampala, et quelques villages, tout au plus 3-4 villages, où les écoles ont dû fermer parce que des groupes de djihadistes arrivent de façon épisodique. Ils viennent aujourd'hui, ils menacent les enseignants et puis ils disparaissent. Et, bon, quand cela se répète 2-3 fois, bon, les gens, pour leur sécurité, veulent se remettre un peu plus en sécurité, en retrait vis-à-vis de ce poste-là. Ou même, il y en a même qui sont restés sur place, mais ils ont peur d'ouvrir les salles de classe.
Cette situation de ni guerre, ni paix, apparemment pourrit un peu la vie de ces populations.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a
des initiatives locales pour pouvoir faire face à cela?
Bon, initiative locale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que contre des forces, des gens armés, des éléments qui se promènent avec des armes de guerre, il ne peut pas y avoir d'initiative locale. C'est les forces armées et les sécurités qui font des patrouilles dans le secteur pour essayer de dénicher. Mais c'est des gens qui sont un peu implantés au sein de la population. Et dès qu'ils apprennent, dès qu'ils ont l'information comme quoi il y a une patrouille qui est dans le secteur, ils disparaissent. Immédiatement après la patrouille, ils réapparaissent.
Merci bien, monsieur le gouverneur. On se tourne du côté de Daouda Maïga, gouverneur de Menaka. Monsieur le gouverneur, bonsoir et bienvenue au débat. Le micro est ouvert. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Bonsoir.
Alors, vous êtes à la tête d'une région qui vient d'être créée nouvellement, où quasiment tout manque. Alors, est-ce qu'on peut se faire une idée de la présence de l'administration au niveau de cette région ? La région de Menaka.
Oui, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Menaka est un ancien cercle de la région des Gao, qui est devenue région. Donc, nous avons tous les défis de transformer un ancien cercle en une région viable sur tous les plans administratifs, économiques, politiques, etc. Pour l'instant, le gouvernorat de Menaka est construit. Le gouverneur et son cabinet sont sur place. Tous les préfets des quatre cercles sont là, ainsi que les sous-préfets. Ainsi que, je dirais, 80% des directeurs régionaux sont nommés. Ils sont sur place avec leur personnel. On ne peut pas dire que les préfets ont déjà rejoint. Par exemple, pour le cercle d'Andrambucan qui est à la frontière, nous envisageons de mettre une force là-bas, mais une force suffisamment puissante pour assurer la sécurité de l'administration, des populations, mais également qui puisse se partager avec les patrouilles conjointes de la République serbe du Niger. Donc ça, c'est envisageable. Au-delà de ça, il y a tout ce qui est projection par rapport aux forces de sécurité à l'échelle d'une région. Donc la légion de gendarmerie, une direction de la police, un groupement de la garde, etc. Tout ça est en cours. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant pour la région de Menaka.
Gouverneur de Menaka, Daouda Maïga, vous avez tantôt parlé de Niger dans votre intervention. Peut-on savoir, le Niger a déjà instauré l'état d'urgence dans ses zones frontales et liées avec le Mali. Peut-on savoir comment vous faites pour sécuriser la frontière entre le Mali et le Niger?
Nous sommes en relation avec les autorités nigériennes, notamment le gouverneur de Tillabéri de Tawa. La réalité, c'est que nous sommes également dans un accord. Et nous sommes trois parties. Donc nous avons en charge la responsabilité partagée de beaucoup de points. Nous nous retrouvons, en tout cas avec nos forces, les FAMA, confrontés à la présence de groupes armés, puissants également, et nous essayons de mutualiser nos forces pour sécuriser la ville de Menaka et ses alentours, avoir des mini-MOC, le MOC est à Gao, je le signale, nous avons même demandé à l'installation des autorités intérimaires la possibilité d'avoir une compagnie du MOC à Menaka pour sécuriser les autorités intérimaires dans leurs activités et leurs déplacements, parce que les menaces sont réelles quand même. Elles sont vraiment réelles. Et si cette compagnie a besoin d'être renforcée, nous pourrions le faire avec les FAMA qui sont sur place et également les groupes armés. Parce qu'en fait, ce sont les trois composantes qui forment les effectifs du MOC. Il y a également la présence d'un bataillon nigérien au niveau de la MINUSMA, des militaires, qui font des patrouilles dans cette zone, notamment la zone de Tabankort, Inaraben, etc. Et les forces armées maliennes, avec les forces Barkhane, sillonnent régulièrement la frontière et souvent font des jonctions avec les forces armées nigériennes. Vous devez savoir aussi que les différentes forces ont des droits de poursuite à l'intérieur des territoires respectifs et de plus en plus, il y a une mutualisation du renseignement des forces, des patrouilles et de la lutte contre ces nouvelles menaces que nous venons d'évoquer. Principalement, nous nous battons aujourd'hui pour que les populations soient mieux et plus impliquées dans la sécurisation de leur localité et également des zones frontalières. Nous ne pouvons pas réussir le défi de la sécurité tant que les populations ne s'intègrent pas elles-mêmes dans ce processus. C'est ça un peu l'enjeu à notre niveau et également au niveau des groupes armés. Ce qui fait que dernièrement à Menaka, des grandes rencontres sont organisées pour que les gens parlent de la sécurité et des mesures qu'il faut prendre. Il y a eu des actions qui ont été décriées, telles que par exemple l'assassinat d'un chef militaire d'un des groupes armés dernièrement à Menaka. Ça veut dire que la menace n'est pas à nos portes, mais elle est à l'intérieur de la case déjà. Alors si ça arrive de cette façon, ça peut arriver d'une autre façon. Donc il est très important que tout le monde s'implique réellement. Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Alors, nous allons prendre une petite pause et on va revenir.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous êtes à l'écoute des radios partenaires du studio Tamani, Mikado FM, et les radios partenaires de l'URTEL. C'est le grand débat, un débat qui a pour thème central le retour de l'administration dans les régions nord et centre du pays. Le gouverneur de Menaka le disait tantôt, il sollicite un détachement du MOC à partir de Gao pour Menaka. Alors cela me pousse à vous poser la question, où est-ce que vous en êtes avec les patrouilles qui se font avec le MOC au niveau de la région de Gao?
Très bien, merci. Le MOC, on se félicite, on se réjouit et on remercie l'ensemble de nos partenaires pour avoir aidé à sa mise en place. Excusez-moi. Et surtout, sa fonctionnalité. Vous savez, ce n'était pas facile. Et vous avez tous vécu ce que nous avons, à quoi nous avons assisté le 18 janvier. Donc ce sont des moments très forts. Et le MOC, aujourd'hui, Dieu merci, est en place. Il est opérationnel, mais à une échelle réduite. Conformément aux termes de l'accord, pour le moment, en plus des patrouilles mixtes, que le contingent du MOC fait en même temps que les autres forces en présence. Ils assistent aujourd'hui, ils participent aujourd'hui à la sécurisation des autorités intérimaires, notamment l'autorité intérimaire de Gao. Donc, il est opérationnel. Mais, puisque c'est un début, les voir sur tous les chantiers, redéployer à Menaka, redéployer à Bourem, redéployer à Ansongo, ça c'est dans le court terme. Mais dans l'immédiat, il s'agit de le rendre fonctionnel, le rendre opérationnel, et c'est sur une distance réduite. L'objectif étant recherché étant rassurer d'abord les éléments constitutifs même qui sont là-dedans et la population qui est là aussi. Et à ce titre, je peux me réjouir et vous dire que vraiment, le MOC, en tout cas à Gao, pour le moment, il nous donne entière satisfaction.
Déjà, quand est-ce que le MOC peut être inséré à l'intérieur même de la région? Est-ce que vous avez déjà prévu une date pour cela? Tantôt, vous avez parlé de court terme, mais quand précisément?
C'est en fonction de du rythme de mise en œuvre de l'accord. Vous savez, le MOC, il est prévu dans l'accord des établissements à Gao. Initialement, c'est Gao, Tombouctou et Kidal. Initialement. Mais avec l'érection, la création de nouvelles régions, comme Taoudéni, comme Menaka, il va falloir y réfléchir. Ou à défaut, redéployer ce qui serait mis en place à Kidal, à Gao, à Tombouctou sur ces deux nouvelles régions. Il a dit, monsieur le gouverneur de Menaka a dit, que compte tenu du contexte, les FAMA assurent la sécurisation des personnes et des biens. Ils composent avec les forces partenaires, Barkhane et MINUSMA. Et ce que je voudrais ajouter, souvent même avec l'appui de l'autorité de Libitako Gourma, qui a un volet sécurisation de la bande frontalière, des collectivités qui sont sur la bande frontalière. Maintenant, aller sur, à l'échelle région, c'est progressif. C'est progressif. C'est-à-dire qu'il faut aller lentement, il faut aller sûrement. Comptabiliser les échecs, les corriger et avancer alors dans le bon sens. Éviter des accidents déjà enregistrés. Voilà le MOC aujourd'hui, en tout cas à Gao. C'est contre vents et marées, il a pu être opérationnel et à la satisfaction de tout le monde.
Alors, monsieur le gouverneur Georges Togo, vous ne pensez pas que le centre et une partie de la région de Ségou s'est trouvée victime de cette instabilisation de cette partie du Nord Mali? Sans le vouloir, l'insécurité s'est déplacée un peu vers
bien
vous.
Bien sûr, l'insécurité s'est déplacée au niveau de la région de Ségou. Bien avant les incidents malheureux que nous vivons maintenant, il y a déjà ce que vous appelez la fameuse forêt de Ouagadou, qui est un repère connu. Et nous avons vécu, nous avons tous appris les assauts meurtriers qu'ils ont eu à mener contre nos forces, à Nampala notamment. Donc ça, c'est des effets qui sont liés directement à la situation du Nord. Maintenant, au niveau de la région de Ségou, nous avons une situation tout à fait particulière, très insidieuse, et qui amène les gens à faire de l'amalgame. On entend tantôt dire qu'il y a un conflit intercommunautaire par-ci, par-là. Moi, je voudrais, à partir de cette radio, vraiment faire une mise au point. Nous n'avons pas de conflit intercommunautaire au niveau de la région de Ségou. Nous ne le souhaitons pas, parce que c'est une région, surtout la partie dans laquelle se trouvent les conflits, c'est deux ethnies essentielles qui sont là-bas.
Et Bambara, comment qualifier la tension qui existe?
Les Bambara et les Peuls. Avant que ce conflit ne commence, il y avait ce qu'on appelle les djihadistes. Ce matin, il y a un intervenant qui vous a dit, qui a demandé à tout le monde de ne pas les appeler djihadistes, c'est des bandits. Vous avez suivi avec moi. Donc, ces groupes de bandits qui, au nom de la religion, intervenaient par-ci, par-là, principalement contre les forces de l'ordre, la gendarmerie, la garde, l'armée. Et ces derniers temps, ils ont commencé à s'attaquer aux forêts, aux populations civiles, aux gens en déplacement dans la brousse. Et pourquoi les gens les assimilent aux peuls? Parce que pour la plupart, tous ceux qui interviennent dans ces milieux sont des hypalpules. Qu'ils soient noirs comme vous et moi, qu'ils soient Bambara ou d'où qu'ils viennent, ils parlent pour la plupart peuls. Et le fait de parler peuls et de s'adresser aux gens dans ces conditions amène les communautés noires à dire que c'est des peuls. Voilà la base du conflit. Quelques éléments perdus. Peut-être que c'est dans le cadre d'un plan savamment monté par les éléments djihadistes pour amener les deux sociétés, les deux communautés à entrer en conflit. Mais c'est pour vous dire, je voulais vous dire que suite aux derniers événements malheureux qui sont produits dans le secteur de Massina, par exemple, les peuls sont partis en grand nombre, mais ils ont été accueillis par les familles Bambara du côté de Nyono. Tous les villages, ou pratiquement la plupart des villages dans lesquels ces communautés peuls qui sont déplacées ont été pour s'installer, c'est des communautés Bambara qui les ont accueillis, qui les ont hébergés, qui leur ont donné à manger.
Alors, comment on peut qualifier alors cette tension qui existe au niveau du centre du pays?
Je dis, c'est une tension savamment montée par les éléments qui se disent djihadistes, parce que eux, ils sont issus d'une communauté, mais ils ne parlent pas au nom de la communauté, ils parlent au nom de leur idéologie. Mais la communauté qui est victime voit en eux les représentants de notre communauté. Et c'est pourquoi les chasseurs, dans leur poursuite, ont aussi, bon, quand vous fourchassez quelqu'un qui intègre un milieu, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le milieu, donc ce sont ses parents, ils sont donc complices. C'est cette réflexion qui a amené donc et ce truc d'assassinat, de représailles, jusqu'à ce qu'on arrive à des situations désastreuses que nous avons connues tout dernièrement.
Alors, monsieur le gouverneur, au-delà, oui.
Je vais vous donner un exemple. Nous avions deux foyers assez difficiles. Le foyer de l'Est, dans le cercle de Tobinia. Là, les sédentaires s'étaient braqués contre tous les éleveurs. Ils avaient même décidé d'une mise en quarantaine totale. Bon, on a pu, grâce au concours des uns et des autres, amener les deux communautés à se parler, à se dire la vérité, à faire en sorte que aucun étranger, djihadiste ou bandit futile, ne puisse pas vraiment, à partir d'un campement Peul, agresser des sédentaires dans leur village, ou à partir d'un campement d'un village sédentaire, agresser des campements Peul dans la brousse. Donc les deux communautés se sont engagées mutuellement à s'informer et à faire en sorte que, djihadistes ou pas, bandits ou pas, que des éléments inconnus ne puissent pas circuler et surprendre des gens, même si des postes militaires par-ci, par-là. Et depuis lors, ça fait bientôt un an, la situation est calme dans cette zone. Donc, du côté de Machina, c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux gens. Il faudrait que les communautés arrivent à se parler, à se dire vraiment, à se donner la main et à agir ensemble. C'est la seule voie de sortie, à notre avis. Il faudrait que les deux communautés se parlent, se disent vraiment, se donnent des indications sur le comportement à prendre. Du côté de Machina, c'est ce qui a sauvé la situation.
Alors, il y a eu des engagements concrets. Monsieur le gouverneur, au-delà de Massina, par exemple, la région de Ségou a un pied dans le Ouagadou, d'où les attaques à répétition dans les zones de Nampala et Djabali, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas besoin aujourd'hui qu'on étend un peu le moc vert dans ces zones-là, qu'il y ait au moins des patrouilles, comme on est en train de lutter contre le banditisme dans les régions du Nord, le centre également qui vit ces mêmes actes-là, qu'on puisse étendre ça vers chez vous également?
À mon humble avis, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'amener le MOC à Ségou. Nous avons des postes militaires, nous avons des postes permanents.
Comme dans ces autres régions-là aussi, dans les régions du Nord également.
Là-bas, la différence, c'est que c'est plus étendu. Ici, c'est le cercle de Niono, essentiellement. Donc, il y a, en déployant un peu plus de moyens, un peu plus d'hommes, avec une meilleure organisation, je pense qu'on peut permettre de mieux assurer la sécurité de ces personnes et des biens. Bien sûr, il y a la perméabilité de la frontière avec la Mauritanie. C'est là notre problème essentiel d'ailleurs. Ces gens viennent faire frapper des coups et disparaissent le plus souvent du côté de la frontière. C'est ce que nous regrettons. Ou du côté de la frontière, ou dans la fameuse forêt de Ouagadou, mais cette forêt aussi est à cheval sur les deux frontières. Donc c'est ce qui rend un peu compliqué la gestion de la sécurité dans la région. Mais aujourd'hui, essentiellement, le problème qui nous préoccupe, c'est ce que les gens appellent conflit intercommunautaire, mais qui n'en est pas un, mais qui demande que tout le monde s'investisse pour éviter que ça se transforme en conflit intercommunautaire.
Merci bien, monsieur le gouverneur. Nous allons nous tourner vers vous, gouverneur Seydou Traoré. Oui. Face à l'insécurité, vous avez lancé à l'époque une initiative intitulée Filidjo. Alors, c'est l'occasion peut-être de vous demander où est-ce qu'on en est avec cette opération Filidjo au niveau de la région de Gao et qu'est-ce que ça a pu apporter comme fruit en termes de lutte contre l'insécurité?
Ben, très bien. Je voudrais, comme je l'avais souhaité, en tant qu'ancien commandant de cercle, préfet de Niono, ancien préfet de Tenenkou, tous dans la zone. Alors, vous voyez, souvent le mode de règlement des litiges pousse les gens à l'élargir, à faire de l'amalgame, dire conflit communautaire. Le mode de règlement. Sinon, si c'est Chiaka qui a gâté le champ de Yakuba, c'est pas le Peul qui a gâté le champ du Bambara? Si on appréhendait Chiaka pour avoir causé un dégât et qu'on le traite comme tel, la communautarisation là est dépassée. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que vous prenez quelqu'un, qu'il soit Bambara ou Peul, au Mali, on appartient à une ethnie. Alors, on va se cacher sous le couvert de la communauté. Et facilement, on bascule pour dire que c'est des conflits communautaires. Sinon, un éleveur qui commet un dégât dans un champ d'un agriculteur, l'éleveur répond de son acte ou l'agriculteur répond de son acte.
Oui, mais monsieur le Maintenant, gouverneur, vous ne pensez pas que c'est l'absence de l'administration qui favorise tout cela? Nous allons marquer une petite pause et on va vous revenir tout de suite.
Très bien.
Le grand dialogue.
Fidèles auditeurs du studio Tamani, Mikado FM et radio partenaire de l'URTEL, le débat se poursuit depuis l'esplanade du Palais de la Culture Amadou Ampateba où se tient la conférence d'entente nationale. Nous recevons comme invité le gouverneur de Segou, Monsieur Georges Togo, le gouverneur de Gao, Seydou Traoré, et le gouverneur de Menaka, Monsieur Daouda Maïga. Alors, monsieur le gouverneur Seydou Traoré, on vous revient avec cette problématique toujours du conflit dit intercommunautaire au niveau du centre du pays. Je disais tantôt, est-ce que ce n'est pas l'absence de l'administration qui fait que on alimente une certaine spéculation autour de ce conflit pour essayer de le qualifier de conflit intercommunautaire? S'il n'y a pas l'administration de justice sur place, les gens ils se rendent justice eux-mêmes.
Très bien. L'administration peut être souvent être évoquée du fait de son absence. C'est possible. La justice peut est souvent être interpellée du fait de la non-justice. Ça aussi, c'est possible. Mais ce qui est évident, c'est que dès que vous, votre frère, est interpellé, il vous fait recours. Vous êtes une autorité administrative, judiciaire ou politique. Vous venez sur ce plan, assister à votre frère, et en venant, vous dites à un autre venez, à un autre venez. Alors, donc, le mode d'intervention, le mode de règlement, les interférences non administratives ou non judiciaires peuvent amener les gens à élargir inutilement des questions strictement personnelles. Et c'est ça, souvent. Vous voyez, souvent certains s'accourent pour aller dire sur les presses, on a tué un tel, même le gouvernement n'a rien fait. On généralise pour ça. Donc, ça, c'est cet aspect de la question. Maintenant, pour Opération Filidjo a été mise en place à Gao. C'était consécutivement une riposte, c'est comme une riposte à l'attentat du 18 janvier. Nous sommes assis, nous avons dit désormais, évitons de nous faire cueillir. Évitons la position statique. Changeons, faisons changer la paire de camps. Nous partons maintenant à la recherche de ceux qui nous attaquent. Et ça, c'est le titre que nous avons mis en commun, l'ensemble des forces en présence. Et nous avons identifié des zones criminologiques, des suspects, des zones suspectées, des personnes suspectées. Et nous avons actionné cette opération qui consiste à fouiller systématiquement tout véhicule, toute personne, tout engin qui rentre à Gao. Cibler un certain nombre de domiciles. Aller jusqu'à les domiciles procéder à des fouilles. L'objectif recherché, c'était quoi? Chercher les instruments du terrorisme. Et je vous avoue que vous pouvez être surpris. Ce qui a été recueilli est hors impensable à Gao.
Et dans la même veine, je vais me diriger vers Monsieur Daouda Maïga, le gouverneur de Menaka. Vous l'évoquez tantôt, l'insécurité au sein de la région de Menaka, c'est dans la ville avec des assassinats ciblés. Est-ce que vous serez tenté par une telle opération Filidjo au niveau de Menaka?
Mais bien entendu. Bien entendu, si l'on ne prend garde, par exemple, cet assassinat qui s'est passé à Menaka, et c'est assez édifiant. Cette personne qui a été assassinée est en même temps le chef militaire de Gatia et aussi le chef, plus grand chef militaire de la plateforme. Alors, s'il peut être filé et que son assassinat soit planifié à son domicile, il y a de quoi s'inquiéter. comme je dis, il ne faut pas du tout penser que ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que les gens se disent, ah non, c'est les forces Barkhane, c'est les forces onusiennes, c'est les FAMA. C'est tout le monde qui peut être ciblé et victime. D'où le fait que tous les acteurs doivent s'asseoir ensemble, réfléchir entre autres solutions à une opération comme celle-là. C'est-à-dire, la vermine, quelque part, ça s'extirpe. Ça s'extirpe. Donc, de ce point de vue, quand les opérations sur la demande de la population, sur l'organisation de la population aux différentes forces ont demandé les contrôles dont le gouverneur de Gao vient de parler, à l'entrée de la ville, tous les engins qui entrent, tout ce qui sort, etc. Vous avez des réactions comme « Attention, Ménaka, il y a l'insécurité qui augmente ». Mais c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on passe une demi-heure à un checkpoint pour être fouillé ou pour déclarer ce qu'on a qu'on est en insécurité. C'est plutôt l'inverse. Nous partageons les villes ensemble. Nous devons en faire des endroits plus ou moins sécurisés. Sinon, lorsqu'il arrive quelque chose, ça éclabousse tout le monde. La sécurité est un tout et dans lequel et dans ce tout, tous les acteurs doivent être impliqués, à quelque niveau que ce soit. Donc les forces en présence, les populations, le partage du renseignement, etc., etc. La vigilance, prendre des habitudes. Vous voyez quelque chose qui est suspect, déclarez-le. Vous voyez quelque chose qui est inhabituel, les autorités sont là. Allez-y. Ça vous permet de vous protéger, de protéger votre voisin et de protéger votre ville.
Alors, depuis quelque temps, nous assistons à la mise en place des autorités intérimaires. Et c'est effectif dans presque toutes les régions du Mali, à l'exception de Tombouctou et de Tao Déni. Monsieur le gouverneur de Gao Sidou Traoré, concrètement, comment se fera la cohabitation entre autorités intérimaires et administration publique?
Alors, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra que... c'est l'appellation nouvelle qui fait souvent l'interrogation. L'autorité intérimaire à Gao, c'est-à-dire c'est dans l'ancienne juridiction, l'ancien dispositif juridique, ce qu'on appelait la délégation spéciale. Mais vous savez, au Mali, la délégation spéciale s'appliquait seulement au niveau des communes. Ça n'a jamais atteint le niveau conseil cercle et niveau conseil régional. Cette fois-ci, compte tenu des dispositions de l'accord, l'accord a dit, puisqu'il n'y avait pas d'administration, puisqu'il y avait des craintes de retour de l'administration, puisqu'il fallait organiser ces retours de l'administration, organiser les élections, donc rétablir l'État dans ses anciens fondements, il fallait des segments. Ces nouveaux segments, ces nouveaux types d'autorité, c'est ça qui fait l'autorité conseil régional devient autorité intérimaire. Si ce n'est pas qu'il faut appliquer l'accord, à certains endroits, sa mise en place n'est pas substantielle. Parce que l'objectif, c'est quoi? Le retour de l'administration, l'organisation des élections. L'administration est à Gao, des élections ont pu être organisées à certains niveaux. Mais ce sont des dispositifs de l'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, ceux qui sont là, c'est des gens qui ont été désignés par les groupements signataires de l'accord et la société civile. Il suffit simplement qu'ils sachent qu'ils sont des démembrements de l'État. Le Mali étant un État sur deux pieds, la déconcentration, la décentralisation. Et ils sont les organes décentralisés. Nous sommes les organes déconcentrés.
Oui, mais il se trouve que ce dispositif existait déjà au niveau de la région de Gao, contrairement à Ménaka, où on parle plutôt de collège transitoire, où tout est à mettre en place. Alors, comment ça se passe spécifiquement du côté de Ménaka avec ce collège transitoire?
Très bien. Je pense que le gouverneur de Gao vous a très bien expliqué ce qui s'est passé. Nous sommes dans le cadre d'un accord et nous sommes trois parties. Donc nous nous mettons à trois pour mettre quelque chose en place, pour passer ce temps, comme on dit, avant que les élections se tiennent. Dans le cas de Ménaka, puisque nous n'avons pas d'organe précédemment, nous mettons en place des collèges transitoires région, puis cercle, puis commune. Et un document sur lequel se sont entendus les signataires de l'accord pour la réconciliation, au Mali, pour la paix et la réconciliation au Mali, qui s'appelle l'entente définie. Définie comment ces autorités intérimaires sont mises en place dans les nouvelles régions, dans les anciennes régions, et quelles sont les attributions qui leur sont conférées et dévolues. Dans le cas de Menaka, nous avons mis en place le collège transitoire région, qui s'appelle également autorité, c'est l'autorité intérimaire région, dont le président et les deux vice-présidents sont d'ailleurs à cette conférence. Et nous comptons plus tard passer au niveau des cercles et au niveau des communes. Dans le cas d'espèce des nouvelles régions comme celle-là, nous aurons pour le cercle, au-delà d'avoir mis la région, nous aurons 11 membres, au prorata de 3 par partie signataire et de 2 sociétés civiles. Et au niveau des communes, nous aurons 7 membres, au prorata de 2 par signataire, et un pour la société civile. Donc c'est vers cela que nous allons, que nous sommes en train de nous acheminer maintenant.
Et nous, on s'achemine vers la fin de cette émission. Juste le temps pour Mariam de
voilà,
poser une dernière question.
On va faire juste un dernier tour de table avec vous les invités. Nous sommes en conférence d'entente nationale. Selon vous, est-ce que ces assises dont la restitution ont été faites ce matin pourront vraiment aider au retour de la paix, de la stabilité dans les régions du Nord?
30 secondes.
30 secondes, Georges Togo, on commence par vous. Bien vrai que
allez-y.
J'espère bien que ces assises vont déboucher vraiment sur une situation, sur l'amélioration de façon définitive, je dirais, et la situation sécuritaire de, tout le, de toute la situation d'ensemble que nous vivons depuis quelques années. Et il ne faut pas oublier que c'est à partir de la base, au niveau des régions, les gens se sont retrouvés, ils ont fait valoir, critiquer la situation et proposer des voies de solution. Et c'est sur cette base-là que la conférence nationale a été engagée, comme vous l'avez suivi. Les débats sont très profonds parfois, même si quelquefois on a l'impression que il y a des gens qui comprennent pas. Mais personnellement, je pense bien que ça peut déboucher, ça doit déboucher sur quelque chose de concret et de pratique. Le peuple.
Gouverneur Seydou Traoré.
Moi, je vous remercie. Moi, je pense que vous m'embarrassez avec la question. Moi, je vous dirais pourquoi vous posez cette question. Parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il fallait. En tout cas, c'est une étape nécessaire. La mise en œuvre de toute convention, de tout accord, si ce n'est pas la loi, tu sais, l'application de la non-loi, ça existe. Hein? Quand on n'applique pas la loi, on crée d'autres situations. Maintenant, dès qu'on arrive à appliquer la loi et à conforter l'application de la loi avec ce qui va sortir de ces assises, nous allons vers, irréfutablement, nous irons vers la paix totale.
Monsieur le gouverneur de Menaka, à vous.
Merci donc, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer encore une fois. Je voudrais simplement vous faire remarquer qu'il était prévu 300 participants pour la conférence d'entente nationale. Ce matin, dans la salle, il y avait plus des milliers. C'est dans notre nature, dans notre essence même de nous retrouver. Voyez-vous, on a dit 300, on est 1200. Ce qui veut dire que le besoin de s'exprimer, le besoin d'écouter l'autre, le besoin d'échanger est toujours là. Qui plus est, cette conférence d'entente nationale est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc, avec ou sans charte, elle a déjà abouti à ce que tout le monde a pris les wagons, comme le président l'a si bien dit, et des résultats palpables sont déjà là.
C'est tout ce que nous espérons. On arrive ainsi au terme des 45 minutes de débat consacrées au retour de l'administration au nord et au centre du pays. Nous remercions nos invités. Il s'agissait de Monsieur Daouda Maïga, gouverneur de Menaka, Monsieur Georges Togo, gouverneur de Ségou, et Seydou Traoré, gouverneur de Gao. Ce débat était co-animé côté Mikado par Sori Ibrahim Maïga et Mariam du studio au Tamani. Les opérations techniques étaient assurées par Noum Djiré et Nagesh Polimera. Merci fidèles auditeurs de Mikado, Studio Tamani et les radios partenaires de l'URTEL, et à bientôt pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, URTEL. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission de débat sur votre radio.
Studio Tamani.